Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Au bout du foot présenté par Eladji Makalou. Avec nous ce soir du football, quelques déceptions et quelques heureux en tout cas autour de la table. On va commencer direct avec Alexandre. Comment ça va Alexandre?
Ça va moyennement mais on va essayer de tenir le coup aujourd'hui.
Moyennement vu des résultats du FC Barcelone on peut imaginer.
C'est ça.
On va y revenir. Et comment ça va? On a franchement là aujourd'hui on est gâtés hein. On a Alexandre et Léo qui étaient au Parc des Princes, donc qui ont pu voir le match direct entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais.
Bah écoute, déjà ça va, j'espère que toi aussi et que tout le monde aussi autour de la table. C'était une bonne soirée malgré le résultat un peu décevant, ça a été un bon match de Ligue 1 pour finir le week-end.
Ok, bah... On sent un peu de déception dans ta voix, Léo, un peu... Bon,
forcément.
Un peu de fatigue aussi, t'as beaucoup crié au parc, c'est
non,
ça?
Non, j'ai pris froid, les changements de température, l'eau, c'est terrible là, ce qui se passe en ce moment.
Ah, c'est sûr, couvrez-vous bien. Et une première pour Bambori, comment ça va Bambori?
Ça va et vous?
Ça va, super, on peut se tutoyer hein, après, on peut se tutoyer, voilà, donc Bambori, bienvenue dans l'émission Au bout du foot, hein. Et il y a Philippe qui va venir nous rejoindre incessamment sous peu. Il est parti déshydrater un peu après, l'émission Mon Paris Sport. Voilà, que vous retrouverez en podcast aussi. On va enchaîner avec la Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui s'impose à domicile 3-1 au Parc des Princes face à une équipe lyonnaise décevante, on peut le dire, dans l'ensemble en tout cas. Lille qui arrache le nul au Vélodrome face à l'OM 1-1. Et Monaco qui manque de réalisme et qui manque aussi l'occasion de passer devant l'OM et font 0-0 à Reims avec un manque d'efficacité. Et on va revenir à quelles sont vos impressions sur cette journée de Ligue 1. Léo, qu'est-ce que t'en as pensé toi du Paris Saint-Germain déjà avec l'Olympique Lyonnais?
Bah, pour parler du match phare de la journée du coup entre le Paris Saint-Germain et l'OL, effectivement on a eu, t'as bien choisi le mot décevant pour parler de l'OL. Je pense que ce qui a été le plus décevant, c'est la manière d'aborder le match. On a vu que les 25-30 premières minutes avaient été très décevantes. Il y avait des espaces au milieu énormes dans lesquels s'engouffraient les Parisiens. Les Lyonnais semblaient en manque de rythme. C'était trop facile d'entrer dans la surface adverse. On ne touchait pas un ballon côté rodanien. Et puis il y a eu un réveil orchestré par Ryan Cherki, auteur d'une passe décisive pour Miko Tadze. C'était ça a été le il a sonné la charge de d'un quart d'heure 20 minutes de d'un bon OL. Et puis en seconde période par contre c'était un match qui s'est équilibré. Le PSG n'a pas été mis en danger, l'OL était trop frileux, mais le PSG a pas non plus mis en danger véritablement l'OL à part le dernier but sur lequel Péri est évidemment fautif. C'est un but un peu anecdotique parce que je pense pas que l'OL aurait été en mesure d'aller inscrire un deuxième but. Mais voilà, c'était un match un petit peu décevant dans l'approche et dans le contenu, en tout cas en début de rencontre.
Tu as dit que le Paris Saint-Germain n'ont pas été vraiment dangereux après, mais quand Gingli loupe la balle de 3-0 quand même, hein, et c'est le chaos total à ce moment-là s'il le met, il me semble, parce qu'il a une très belle occasion où il manque son contrôle et le tir, il est pas...
Ouais, il fait un tir voilà, tout mou, il me semble.
Tir tout mou, il rate une belle occasion, il était seul dans les 6 mètres, et bah, il devait envoyer...
Ouais, après, je pense que ça fait partie d'un match de foot, tu vois, c'est comme si on... Avec des 6, par exemple, on peut parler du pénalty non sifflé sur Nouama. Moi que je trouve aberrant de même pas de le siffler ou non, c'est une question qui se pose, mais de même pas être allé voir la VAR parce que tu es sûr et parce qu'en plus on te dit dans le camion on valide ta décision dans le camion alors que c'est franchement très litigieux, ça fait aussi partie d'un match, voilà, on n'y reviendra pas, comme les cartons jaunes de Miko Tadze et Donnarumma, on pourra en reparler aussi, mais Voilà, effectivement, le PSG était dominateur sur l'entame, la grande entame de match. Et puis après, c'est un petit peu plus équilibré, je trouve.
On peut en reparler, hein, Miko Tadze qui marque un super but sur une passe de Cherki. D'ailleurs, on ne sait pas s'il a fait exprès ou pas. Moi, pour moi, elle n'était pas pour il me semble. Hein. Moi, quand je l'ai vu en direct, je me suis dit, il s'est trompé. Ah, moi, quand je l'ai vu en direct, je me suis dit, il s'est trompé parce qu'il n'a même pas regardé. Et il me semblait que c'était pour Nouama. Il me semblait. Après, peut-être c'est moi, je me trompe et que Cherki est un génie, sûrement incompris en tout cas. Alexandre, qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Bah, franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Mais moi, j'étais un peu déçu des Lyonnais, surtout à l'entame de match pendant les 25-30 premières minutes où c'était compliqué pour Lyon. Puis, comme a dit Léo, après, il y a eu un petit réveil orchestré par Cherki, Tolisso qui s'est bien ressaisi aussi. Après, voilà, moi, c'est ce que je dis. Là, si on parle du Paris Saint-Germain, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que le jeu du Paris Saint-Germain, il est toujours le même, en fait, à chaque fois. Sauf que là, par une bonne entame de match, ils ont réussi à marquer tôt dans le match par une action individuelle de Désiré Doué, qui ensuite vient décaler Ousmane Dembélé. Et c'est ce que je dis à chaque fois. À partir du moment où, dans un jeu de maîtrise comme ça, t'as tes ailiers qui font la différence et qui éliminent en un contre un, forcément ça crée des brèches, ça crée des espaces. Ensuite, du coup, tu décales Ousmane Dembélé 1-0 et le match ensuite en devient que plus simple. Voilà.
Oui, après, sûrement, Bambouri, tu peux nous dire toi aussi ta réaction sur le match. Désiré Doué qui fait, je pense, sa meilleure performance au Paris Saint-Germain, en tout cas sous les couleurs des Bleus, non? Je sais pas.
Oui, là il commence à revenir. Bah, dernier match en Ligue des Champions, il a aussi marqué en fin de match contre Salzbourg. Et là, dernier match aussi, il finit homme du match avec une note de 8,5 sur 10. Donc c'est plutôt une bonne chose pour lui, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes quand même vis-à-vis des supporters. Et là, c'est bien aussi qu'il hausse le niveau.
Ça lui redonne de la confiance, hein. Et sinon, toi, sur le match, qu'est-ce que tu en as pensé? Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3 buts à 1 face à l'Olympique Lyonnais. C'est logique pour toi? C'est Lyon, ils ont été décevants. Qu'est-ce que tu en as pensé de...
Bah, sur les dernières années, quand même, le PSG domine assez bien au niveau national. Après, Lyon, des fois, il leur pose quelques problèmes. Mais je ne pense pas que Lyon aurait pu faire grand-chose face au Paris Saint-Germain hier.
Ok, merci Bambori. Philippe avec
Salut,
nous.
Meladjic, ça va?
Salut Philippe,
J'avais
ça
promis
va?
De
Tu vas
venir,
bien?
tu vois?
Oui, c'est ça. Tu nous as manqué, Philippe,
Ouais,
ça fait un
j'ai
moment
manqué. Ouais.
que tu n'es pas
Ouais.
venu. Comment ça va?
Bah, ça va très bien. Ça va très bien. Hein. Donc, on a vu des bons matchs. Donc, déjà, c'est important.
Oui,
Hein.
c'est important,
Hein.
surtout en
Tu
Ligue 1.
parlais du Paris Saint-Germain. Ce qui
C'est
est
ça.
incroyable, c'est cette équipe qui est en difficulté en Ligue des Champions et qui arrive quand même à répondre présent à ces grands rendez-vous en championnat. Ils ont battu Marseille, ils ont battu Lyon. Donc les matchs phares, ils les ont faits, même s'il y a eu le petit couac au Parc des Princes face à Nantes, un partout. Alors que c'est une équipe qui est complètement différente et méconnaissable en Ligue des Champions. Bon, sauf cette semaine face à Salzbourg. Bon, enfin bon, c'était la moindre des choses. C'est quand même incroyable, ce Paris Saint-Germain à deux visages.
Ça paraît
Ouais.
incroyable, hein, ce Paris Saint-Germain, comme tu disais, à deux visages. Mais est-ce que c'est, je sais pas, peut-être cette peur, et même avec le retour aussi de Gonzalo Ramos, hein, ça compte, hein, Gonzalo Ramos qui a encore été buteur hier,
Oui.
je pense que ça compte aussi au niveau du Paris Saint-Germain. Kolo Muani qui n'a pas été notamment dans le groupe,
Ouais.
qu'est-ce
Et
que
on
tu en
dit
as
qu'il pourrait
pensé?
partir.
Et toi, tu penses que ça serait une bonne décision?
Bah, le problème, c'est qu'Henrique ne fait pas souvent jouer des numéros 9, des vrais numéros 9. Et il est peut-être décidé à un peu plus jouer des numéros 9. Non, je crois qu'il faut garder quand même un garçon comme Kolo Muani, quoi, dans le staff du PSG, hein, parce qu'il faut tourner quand même. Donc, non, il faut qu'il reste au PSG tout du moins jusqu'au mois de juin, quoi.
Mais s'il reste au PSG et il ne joue pas, est-ce que
Ah
tu
oui.
penses que sa place de titulaire sera encore valide en équipe de France? Parce que
Ah bah non,
maintenant, c'est devenu
en principe,
le
si tu peux
numéro
pas
9.
jouer, si t'es pas titulaire dans ton équipe, la logique voudrait que tu ne joues pas et que tu ne sois pas titulaire en équipe de France, hein.
Donc, dans ce
Ouais.
cas-là,
Ouais, il faut qu'il
faudra.
parte. S'il joue pas, il faut qu'il parte. Mais avec Henrique, il y a tellement des choix différents. Des fois, il y a pas de numéro 9. Il fait même jouer Lee en numéro 9, des fois. Enfin, là, il a fait jouer un vrai 9
C'est
avec
ça.
Ramos. Donc, voilà.
Ouais, il a fait jouer un vrai
Ouais.
neuf et c'est
Même
ce qui
Doué,
est.
c'est pas un 9, hein.
Comment?
Doué, c'est pas un neuf.
Oui, hein. Doué, c'est pas un neuf.
De temps en autre, il est placé comme ça, mais c'est pas un neuf non plus. Hein.
Oui, aussi.
Ouais, ouais.
En tout cas, on a pu voir hein, Gonçalo Ramos qui était blessé et Colomboigny n'a pas été plus que ça titulaire. Du coup, là encore, avec le retour de Gonçalo Ramos, moi, il me paraît très très compliqué quand même pour que Colomboigny dispute des minutes jusqu'au point où ne pas le mettre dans le groupe.
Ouais,
c'est que vraiment, dans la hiérarchie, il l'a vraiment mis tout.
Ah bah,
s'il
joue pas, faut qu'il parte, hein, ça c'est sûr.
Il me semble, je pense que ça fait l'unanimité.
Mais ce serait dommage, quoi.
Ouais, voilà. Ça serait dommage. On va basculer avec Lille, OM Lille. Les Olympiens s'en sortent pas mal quand même avec un match nul face à Lille. Hein. Lille qui dominait ce match. En tout cas, plus ou moins, c'était un peu dans les deux sens. C'était un très beau match aussi. Mais Lille ont eu des belles occasions et ont réussi à arracher le nul en fin de match. Qu'est-ce que t'en as pensé, Philippe?
Marseille à domicile, c'est pas leur saison. Ouais, je crois que c'est le 3. Ils ont gagné que 3 matchs, je crois, à domicile cette année. Hein. Ouais, donc voilà. Mais Lille, c'est une belle équipe. Hein. Lille, c'est une belle équipe. Ça fait quelques années qu'ils sont réguliers, qu'ils sont constants. 4e, 5e. Non, c'est une belle équipe. Et puis, match nul, oui, c'est une bonne performance pour les Lillois. Et Marseille, bizarrement, alors eux aussi s'expriment mieux à l'extérieur qu'à domicile cette année. Voilà.
Ça serait
incompréhensible. Mais c'est pas illogique pour moi hein, que Lille aille faire un nul à Marseille. C'est pas. J'aurais fait un pronostic à peu près comme ça. Hein. C'est pas illogique là, la saison.
Ça ne nous étonne pas, en tout cas, nous, on a eu l'habitude de tes pronostics souvent gagnants, du coup, on prend note encore. Bamboli, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille face à Lille au Vélodrome?
C'était un match plutôt serré, avec deux formations qui se valent plutôt bien. Après, en fin de match, quand même, Marseille, il rate quelques occasions, et Lille, ils arrivent à revenir grâce à Diakité. Mais pour moi, c'était un beau match et un nul, c'est bien mérité pour les deux.
Ok, merci Bambori. Alexandre, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match?
Ouais, franchement, c'est pas très surprenant, je suis d'accord avec Philippe. C'est pas surprenant qu'il y ait un match nul, mais c'est toujours la même chose en fait. Marseille, décevant quoi. Parce qu'en début de saison, en tout cas, moi je l'ai dit et je sais qu'on était plusieurs à le dire. On s'était un peu emballé en pensant qu'ils pouvaient jouer le titre. Et au final, c'est toujours les mêmes problèmes. À domicile, ils y arrivent vraiment pas. C'est
ça,
vraiment
c'est les Marseillais
compliqué.
Qui s'en bat là.
Et ouais. Et en plus, ils ont. Faut rappeler que Lille a eu un match de Ligue des Champions au milieu de la semaine. Ouais, que Marseille, ils n'ont pas de match de Ligue des Champions. Ils ont chaque fois une semaine pour aborder les matchs un par un. Et malgré ça, ils arrivent à se. Pour moi, c'est plus un aspect mental. Hein. Des fois, ils arrivent à se liquéfier devant leur public. Mais en tout cas, Lille qui arrache le nul à la fin, c'est 100% mérité parce que les occasions les plus franches, finalement, elles étaient pour les Lillois, surtout en deuxième mi-temps. Donc voilà, Marseille qui va plus jouer la place qualificative en Ligue des Champions que le titre, ça c'est une certitude en tout cas.
De Serbie qui a encore dit en privé, apparemment, d'après certains médias, qu'il n'était pas venu à l'OM pour finir deuxième. Et ils ont. Comme tu l'as si bien dit, ils ont pas eu le temps d'aller. Ils ont le temps de préparer les matchs chaque semaine et ils auront encore le temps parce qu'apparemment, il y a encore un voyage de prévu pour ressouder l'équipe au Danemark cette semaine. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette gestion de Serbie, Léo?
Moi j'aime bien les gens ambitieux, donc son discours je suis pas venu à l'OM pour être deuxième, je le trouve cohérent, surtout pour un club comme l'OM. Il est pas venu à Saint-Etienne, Toulouse ou encore Montpellier pour dire je serai leader de Ligue 1 au terme de la 34e journée. Après il faut avoir des ambitions, c'est bien, mais il faut aussi être réaliste. Aujourd'hui, est-ce que l'OM est en mesure d'inquiéter le Paris Saint-Germain? Je pense pas. En termes d'effectifs, en termes de régularité, je pense pas. Tout a été dit sur le contenu de la rencontre par mes collègues. C'était un match vraiment intéressant de Ligue 1. Entre deux équipes qui aiment jouer, il y avait des espaces. Mais par contre, je voudrais souligner que c'est encore un match qui a été marqué par des décisions arbitrales à minima contestables. D'ailleurs, la Ligue s'est expliquée dessus aujourd'hui en soutenant l'arbitre de la rencontre. Je crois que c'était monsieur... Non, c'était pas Monsieur Bastien, ça c'était hier soir. C'était Delageau, il me semble. Voilà, il n'y a pas une journée de Ligue 1 qui se passe sans qu'on parle de l'arbitrage. Hier encore, on en a parlé. Ce qui est dommage, on pointe souvent du doigt les entraîneurs quand ils font des choses pas bien envers les médias. On pointe les joueurs quand leurs performances sont mauvaises, mais malheureusement, on pointe jamais les arbitres. Ou du moins, on leur demande pas de s'expliquer. Voilà, moi, je trouve que c'est quand même important aujourd'hui, à la fois pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, mais aussi pour l'image que renvoie la Ligue 1 à l'étranger, même si la Ligue 1 est loin d'être le seul championnat où il y a des problèmes d'arbitrage.
Juste pour ajouter un truc sur Marseille, c'est que je le dis toutes les semaines à chaque fois, c'est que, et je suis d'accord avec Léo, c'est qu'il y a vraiment un problème d'effectif. Et on le voit, et le pire, c'est... Bon, après, moi, je suis partisan de laisser du temps aux entraîneurs à chaque fois, bien évidemment, mais les joueurs ne progressent pas. Alors qu'à Lille, là où je suis d'accord avec Philippe, c'est que c'est vraiment une belle équipe, et
Depuis
que
4 ans,
intrinsèquement, maintenant, les joueurs de Lille peuvent regarder les joueurs de Marseille dans les yeux, parce qu'ils progressent. Ils progressent, il y a une alchimie collective, il y a de la
Et quels que
cohérence.
soient les entraîneurs, ils arrivent toujours à
Oui,
être
à chaque
quatrième,
fois,
cinquième,
parce
hein.
que la
C'est une
politique
équipe que
sportive est
vraiment,
bonne, il y a de l'achat-revente, mais il y a aussi un recrutement qui est super intelligent. Franchement, voilà, Marseille, l'effectif, c'est pas un effectif qui permet, parce que je le rappelle, ils jouent qu'une compétition. Enfin, ils n'ont pas de compétition européenne. Donc c'est pas un effectif pour moi qui permet de jouer sur plusieurs tableaux en même temps et ça se voit tous les week-ends.
Merci Alexandre pour cette pour l'ajustement un peu de tout ce qui a été dit autour de la table. Monaco qui manque de réalisme et qui font 0 à 0 contre Reims avec des montants touchés durant le match. Mbolo, Balogun qui s'est blessé apparemment. C'est compliqué pour Monaco en tout cas là qui marque le pas après une semaine décevante, surtout en Ligue des Champions. On va y revenir juste après. Mais toi Bamboulé, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match de Reims Monaco 0 à 0?
Monaco, je pense qu'ils auront pu mieux faire parce que contre une équipe de Reims qui est souvent milieu de tableau, si tu veux jouer les premières places, bon, tu veux passer devant Marseille qui a fait un faux pas un peu plus tôt dans la journée, tu dois t'imposer et essayer d'être un peu plus proche du PSG. Mais là, ils laissent le PSG s'échapper en tête avec 7 points d'avance et je pense qu'ils se battront pour la deuxième place avec Marseille.
Merci, bon pour lui. Alexandre?
Ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit Bamboli. Ils vont se battre pour la deuxième place, mais c'est toujours décevant en fait de laisser des points comme ça. Après, il y avait la fatigue aussi. Jouer à Arsenal, c'est toujours éprouvant. Ils jouent 3 jours plus tard parce que on écoutait Stéphane qui faisait un coup de gueule d'ailleurs. Les jours de repos, ils sont vraiment mal organisés, mal répartis. Donc on peut comprendre qu'il y a un peu de fatigue. Et ces derniers temps, il y a quand même un petit coup de mou pour Monaco qui perd des points assez faciles et qui laisse Paris s'échapper en tête.
Oui, ils ont quand même perdu quelques points dans les matchs importants, hein, quelques journées avant. Hein, il leur manque toujours le petit quelque chose et c'est vrai que c'est une déception. 0-0 à Reims, pour eux, c'est une déception, quoi.
On annonce aussi notamment Colomouani du côté monégasque.
Ah, ça serait un bon club pour lui,
Ce serait
ça.
vraiment
Ah oui,
pas
ça
mal.
serait un bon club
Ça
pour lui,
serait un
ça.
bon
Ah
club.
oui.
Sans pression.
Oui.
Voilà, un club qui
Ouais,
joue
oui, parce
les
qu'il y a
places
Monaco,
européennes.
et qui a
Oui,
besoin d'un numéro 9 qui soit constant.
oui, oui,
oui,
aussi,
oui.
qui soit
Ce
constant.
serait un bon
Ça
club, ouais.
pourrait être un
Oui,
bon
oui,
club
oui.
pour lui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Léo?
Oui, moi je pense, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, de toute façon, faut que Colomouani joue, surtout que par rapport à son rapport à l'équipe de France, Deschamps n'hésitera pas à le mettre sur le banc. D'ailleurs, il avait déjà, entre guillemets, menacé Olivier Giroud il y a quelques années de le mettre sur le banc s'il ne retrouvait pas du temps de jeu à Chelsea. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que à combien Paris serait disposé à vendre Colomouani? Parce qu'on rappelle que c'est un joueur qui a été acheté entre 90 et 95 millions d'euros, qui est quand même jeune. Je pense que sa valeur marchande d'aujourd'hui est encore élevée. Est-ce que sur un mercato d'hiver, Monaco est en capacité de sortir? Parce que clairement, tu le vendrais à combien aujourd'hui? 55, 60, 65 millions peut-être? Pour éviter de trop perdre sur son transfert. Ça me paraît être un petit peu compliqué quand même pour cet hiver en tout cas. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'au final, le grand gagnant de cette journée, c'est le Paris Saint-Germain, puisque Lille, l'OM, Monaco, Lyon ont tous soit fait match nul ou perdu, ce qui n'a pas non plus d'ailleurs déréglé le classement des prétendants au podium, on va dire. Monaco qui a fait 0-0 et qui aurait même pu perdre. J'ai une action de Nakamura en tête qui reprend bizarrement du pied alors que je pense qu'une tête piquée aurait
Ça
permis
suffit.
de marquer tout simplement. Donc voilà, on a plusieurs résultats qui font plaisir pour le Paris Saint-Germain. Après Monaco, il y a quelques semaines, je me souviens que j'émettais mes doutes quant à la seconde partie de saison, parce qu'ils sont souvent en deuxième partie de saison un petit peu en roue libre, alternant les bons, les mauvais résultats, et souvent ils finissent par se vautrer, entre guillemets, par rapport aux attentes qu'on avait placées en eux en début de championnat. Sauf que là, force est de constater qu'ils commencent déjà à lever un petit peu le pied. Alors, est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est annonciateur d'une mauvaise deuxième partie de saison, je ne sais pas. Après, il faut aussi souligner qu'ils ont des absents, notamment Zakaria au milieu de terrain, qui est un des meilleurs milieux du championnat. Donc voilà, on va voir dans les prochaines semaines, et je pense que le match de mercredi contre le PSG nous en dira déjà un peu plus long sur la fin de saison.
Merci Léo. Philippe?
Oui.
Oui, ce que t'en as, toi, ce que Monaco qui manque le coche encore.
Bah oui, c'est vrai que il manque le coche dans des matchs importants. Il lâche un peu de l'aise. Bon, finalement, comme disait Léo, c'est vrai que les poursuivants, ils profitent pas. Même quand Paris a une petite baisse, comme par exemple le match nul contre Nantes il y a quelques semaines.
Et après
les
contre
poursuivants,
Auxerre.
ouais, contre Auxerre, encore Auxerre, bon. Ça me dérange moins, c'est à l'extérieur, c'est à Auxerre. Bon, c'est quand même une bonne équipe, Nantes, hein, qui joue presque le maintien, qui vient faire un nul au Parc. Bon, c'est un peu plus décevant. Et c'est vrai qu'ils n'en profitent pas derrière, parce que Monaco, justement, a des comme ça, des couacs. Ouais, le nul à Reims 0-0. Il y a eu d'autres matchs où ils ont laissé échapper les points. Oui, je pense qu'effectivement, ça va être là toute la saison. En plus, ils jouent la Ligue des Champions. Donc, ils ont peut-être laissé aussi quelques forces dans la bataille. Et effectivement, c'est une équipe qui va jouer à peu près la deuxième, troisième, voire même peut-être la quatrième place, quoi. Mais c'est dommage, quoi.
Ouais. Merci, Philippe. On revient sur ces résultats. Le Paris Saint-Germain qui sont imposés 3-1. Rennes 2-0 face à Angers.
Ça va un petit peu mieux.
Ça va un petit peu
ouais,
mieux.
Tout petit voilà. peu mieux.
Ça va un petit peu mieux, on peut dire, pour les Rennais qui commencent à revenir un peu. Strasbourg qui sont imposés au Havre 3-0. Brest 4-1 face à Nantes. Ça ne va pas pour les Nantais, ça continue à chuter.
Brest et Havre.
Montpellier qui essaye de repartir un peu, hein, même si un match nul contre Nice, bon, c'est deux équipes qui ne vont pas bien en ce moment, Nice non plus, et Nice qui se font accrocher par Montpellier en fin de match 2-2.
Ça va être dur, Montpellier. Hein. Ouais, ça faisait quelques années où il frôlait la correctionnelle, et là, cette année, c'est peut-être l'année de trop, malheureusement.
Ouais, mais Montpellier, par contre, je trouve qu'ils font preuve d'un état d'esprit qu'ils n'avaient pas démontré en début de saison, et les derniers résultats, je crois, sont pas si mauvais que ça. J'ai vu des bonnes choses. Je pense que, par exemple, quand je regarde leur milieu de terrain, s'il est à 100%, y a du potentiel. Et leur échappatoire ou leur motif d'espoir, c'est que leurs concurrents à la descente ne sont pas meilleurs qu'eux.
Non, c'est sûr. Le Havre, Angers, Saint-Etienne. Ouais.
Ça se joue à pas beaucoup. Hein. Le Havre, qui sont 17e avec 12 points. Saint-Etienne avec 13 points. Angers avec 13 points. Nantes avec 14 points. 14e d'ailleurs, et voilà, en tout cas à partir de la 14e place à la 18e, ça se joue en 5 petits points, et ça peut se rattraper très rapidement. Et on va enchaîner, on va se faire une petite virgule avant d'enchaîner avec la Ligue des Champions, le retour de la Ligue des Champions, hein, le Real qui s'impose à l'Atalanta 3-2 avec un but de Mbappé qui sort malheureusement sur blessure, avec Brest qui s'impose à domicile face au PSV Eindhoven, et le Paris Saint-Germain, on y revient tout de suite. Le Paris Saint-Germain, enfin, qui renoue avec la victoire et aussi le premier buteur d'un attaquant du Paris Saint-Germain, quand même. Il a fallu du temps, mais le retour aussi de Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos qui réussit à marquer un but. Et ensuite, ça fait le PSG qui déroule 3-0 face à Salzbourg. Hein. C'était le strict minimum, en tout cas, de ce qu'on attendait.
Et encore, ils ont raté des occasions. Hein.
Et encore.
Première mi-temps.
Ça aurait pu finir le score aurait été plus grave si les Parisiens auraient été un peu plus adroits devant le but, mais 3-0 on prend quand même, c'est pas mal, mais le Paris Saint-Germain qui sont quand même très mal classés, et on espère que ça ira mieux avec une équipe de Manchester City qui ne va pas bien du tout. Manchester City qui se sont fait dominer et qui sont les futurs adversaires du Paris Saint-Germain. Manchester City qui ont perdu 2-0 face à la vieille dame, hein, la vieille dame. Voilà le jeu de mots qui a été fait, hein, la vieille dame face au vieil homme, et c'est la vieille dame qui a gagné. et le Barcelone qui se sont imposés à Dortmund 3-2 avec un doublé de Ferran Torres. Hein, Ferran Torres qui est en ce moment le super sub, hein, vraiment, qui rentre et qui fait cette différence qui n'a pas été faite avant. Et les Monégasques qui se font corriger face aux Gunners 3-0 avec un Saka en grande forme et qui les attendait en grande pompe aussi. Et bien évidemment, pas oublier le Real Madrid qui se sont imposés à l'Atalanta lors d'un match choc et avec Mbappé buteur, mais qui sort sur blessure. Quelles sont vos impressions sur cette journée de Ligue des Champions, Bambori?
Avec le Real, je m'attendais aussi à une victoire parce qu'ils étaient quand même 24e au classement, juste devant le PSG. Donc je m'attendais quand même à une victoire face à une bonne équipe de l'Atalanta, même si en fin de match, Retegui rate une grosse occasion. Mais ça a été un match solide des Madrilènes. Ensuite, avec le PSG qui ont fait plutôt une bonne impression quand même. 3-0, ils se devaient de gagner pour remonter un peu au classement. Et sinon, et après le Barça qui a été dans un match très difficile quand même parce que Dortmund chez eux, ils sont très difficiles à battre. Ils ont réussi quand même à gagner avec Ferran Torres qui revient petit à petit sous Hansi Flick. Il s'était blessé, mais maintenant il revient et il marque quelques buts qui sont importants pour sa confiance. Et on verra.
Et pour l'équipe aussi.
Oui, il n'a pas réussi à les mettre hier soir, mais bon. Mais on verra comment ça va donner pour la suite, pour le Barcelone.
Lewandowski qui est un peu dans le mou aussi ces derniers temps. Hein. Je sais que c'est l'un de tes joueurs préférés, Bambori. Lewandowski qui est en ce moment dans le dur. Hein. On a vu hein, même là face à Levante, il a loupé des énormes. Leganés. Et il a loupé des énormes occasions. Ça n'est pas un habituel de ce fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est l'âge, c'est la vieillesse, c'est quoi?
J'aurais pu dire c'est l'âge, mais saison dernière, beaucoup disaient que c'était l'âge. Mais on a vu que cette saison, soit Hansi Flick, soit un entraîneur qui donne de la liberté à l'équipe et un jeu plus offensif, il arrive à se démarquer. Et je pense que c'est quelques matchs où c'est difficile, mais qui va bien revenir.
En tout cas, on lui souhaite. Et tout simplement, Brest qui se sont imposés aussi face au PSV Eindhoven. Hein, autour de la table, il y en avait pas mal qui avaient dit que Brest n'allait pas gagner encore. On revient, Bambori, juste après. Léo, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Toi, tu pensais que Brest allait le faire à domicile?
Ah non, je pensais même pas qu'ils allaient faire un aussi bon parcours. D'ailleurs, personne ne le pensait, je pense. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'est un parcours dont on parlera dans 10, 20, 30 ans concernant les clubs français. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas de souvenir qu'on ait eu une si grosse surprise dans nos clubs. Concernant les autres résultats, effectivement, Mbappé, c'est dommage qu'il se blesse parce qu'il sortait une très bonne première demi-heure, ponctuée de son but. C'était un match très agréable entre le Real et l'Atalanta. Le Barça qui gagne à Dortmund, c'est aussi une grosse performance, parce que Dortmund est une équipe très très difficile à manœuvrer à domicile. Il me semble que c'est une des meilleures de Bundesliga, si ce n'est la meilleure, mais beaucoup plus en difficulté à l'extérieur. Il y a ensuite eu Monaco. Monaco, c'est un retour sur terre, quoi, parce que c'est un résultat au final assez logique. Il n'y a pas eu match.
On peut être quand même un peu déçu en vue des buts qui se sont fait prendre, des erreurs défensives flagrantes.
Mais même s'il n'y avait pas eu ça, je pense que Arsenal l'aurait emporté sans grande difficulté.
Il faut quand même se rappeler qu'Arsenal avait aussi largement dominé collectivement le Paris Saint-Germain 2-0. Hein, donc finalement, je n'ai pas trop eu de surprise.
Bon, après, le Paris Saint-Germain,
le 3-0, je veux dire qu'effectivement, chacun est remis à sa place.
Puis on parle d'Arsenal, une des meilleures équipes d'Europe aussi. Il y a une certaine logique qui est respectée. Après, on parlait tout à l'heure du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Pour moi, c'était une journée qui tout double au vu de leur classement, au vu des affrontements qu'ils vont avoir. Encore plus d'ailleurs pour le Paris Saint-Germain que pour le Real Madrid. Il fallait absolument qu'ils gagnent. Heureusement que ça a été fait parce que Salzbourg, c'est une équipe qui est très faible. Peut-être une des pire de cette Ligue des Champions. D'ailleurs, aujourd'hui, Pepin Linders a été limogé de son poste d'entraîneur.
Il y a Leipzig qui font pire.
Avec 0 points. Effectivement. Effectivement. Mais en termes
de les amis, hein, Salzbourg.
Moi, c'est surtout
Red
en termes
Bull,
de contenu. En termes de contenu, je trouve que Salzbourg. Puis voilà. Effectivement, Paris, c'est un travail. C'était net, précis, sans bavure. Victoire 3-0, on peut rentrer à la maison tranquillement. Voilà, aussi dans la logique des choses. Donc, félicitations à Paris. Maintenant, il va falloir aborder Manchester City et le déplacement à Stuttgart. Donc, deux rencontres à l'instant T qui semblent à la portée des Parisiens. Mais on verra dans un mois où ils en seront et où en seront leurs deux adversaires aussi.
Si le match se jouerait demain, franchement, j'aurais été confiant pour le Paris Saint-Germain face à Manchester City. Mais là, il en reste un mois.
Ouais, c'est le 20 janvier, je crois.
Un mois, oui, c'est ça. Un mois à Manchester City pour retrouver un peu dur, on va dire.
Surtout qu'ils vont jouer pendant le Boxing Day, en plus.
Ouais, en plus.
Oui, ils vont jouer aussi pendant le Boxing Day. Ça va quand même...
Non, et puis ça ne peut pas durer comme ça, quand même. Manchester City, ses contre-performances, ça peut pas... À un moment, ça va bien s'arrêter, quoi.
Ah, ça va bien s'arrêter. Ah. Mais ça aurait dû déjà s'arrêter. Ça fait un certain moment. Ça fait 10 matchs.
Alors moi, je ne gagne plus. Je pense qu'on perd un peu des points de repère sur cette Ligue des Champions et que tous les gros, ils vont commencer à être donc trouver le rythme de croisière, c'est-à-dire le Real, peut-être même Manchester, dès février-mars. Donc ils vont peut-être assurer la qualification ric-rac, passer par les barrages, c'est-à-dire voilà. Et puis après, ils vont peut-être monter en puissance et à l'arrivée, ça ne changera pas grand-chose. On retrouvera les meilleurs à l'arrivée. Bon, le Barça, Liverpool sont dans une forme exceptionnelle. Brest fera l'exploit, mais il peut très bien sortir en huitième de finale. Hein, se faire sortir directement en huitième. Les clubs français, je pense, ils vont se qualifier par les barrages, que ce soit Monaco ou Lille.
Paris, Lille qui sont huitième.
Oui,
huitième. Brest septième. Pour l'instant, ils sont directs qualifiés.
Oui. Bon, mais il y en a un des deux qui va passer. Peut-être Brest. Dans la foulée, ce serait une belle histoire, une belle aventure quand même. Hein. Voilà. Mais dès février-mars, les gros vont se mettre en place.
Et mais est-ce
il
n'est
pas exclu
que
le Real ou Manchester City donnent un tout autre visage. Paris, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais Manchester ou bien Real, je pense qu'ils vont donner un autre visage. Ils vont commencer à retrouver le rythme de croisière et à l'arrivée, on retrouvera les mêmes.
Le Real, je peux y croire, mais franchement, moi, honnêtement, j'ai envie de miser une pièce sur Manchester City qui ne se qualifiera pas pour la Ligue des Champions, pour les barrages. Là, je vous le dis, hein, parce que s'ils perdent le match face au Paris Saint-Germain, City sont déjà 22e.
Hein. Oui, ils sont un peu avant.
Ils sont 22e. Si le Paris Saint-Germain les bat,
Paris,
logiquement, ils passeront.
Ils sont out. Là.
Voilà, ils sont out. Du coup, si le Paris Saint-Germain les bat, ils passeront devant.
Ouais. Et mais là, comme on a dit, c'est dans un mois.
Oui, c'est dans un mois.
S'il y a un match nul partout.
S'il y a un match nul, mais même match nul, ça fait pas forcément leur affaire.
Non,
hein,
avec des
équipes comme
matchs.
Stuttgart,
c'est quoi le
qui
dernier
sont pas
match
très loin
de Manchester
Club Rouge.
City.
Ils jouent
à domicile,
contre
l'Étoile Rouge.
Club Rouge, mais Club Rouge aussi sont encore. Oui, Club Rouge. Club Rouge aussi sont encore en compétition. Oui, et qui sont encore en compétition, attention.
Ah, bah le comble, ce serait que le PSG se fasse sortir dès le premier tour quand même. Ça serait quand même.
Ah, c'est une possibilité à envisager. 6 buts marqués, 6 buts encaissés.
Après, il ne faut pas oublier que ce format de Ligue des Champions est fait pour que les gros passent.
Oui, les gros sont là.
Et les gros le savaient avant de commencer la Ligue des Champions. Ils pouvaient même concéder deux défaites. Il n'y avait aucun problème.
Comme en phase de poule. Alors que
sur l'ancienne formule, deux défaites, il ne faut pas plus.
C'est ça.
Ouais, c'est vrai, parce que tu peux finir troisième aussi.
Parce que tu peux finir troisième.
Oui, si les autres finissent. Formule,
alors qu'aujourd'hui, t'as quand même 24 équipes qui se qualifient. 24 sur 32, c'est énorme.
Même du 12 au 24, du 8 au 24.
Oui, t'as un 16e de finale.
Voilà, ils ont un 16e.
Ouais, mais tu peux être 20e et puis être champion à l'arrivée.
C'est ça.
Bien évidemment.
Oui.
Donc, ça va être intéressant.
Ouais. Je pense que, on s'y perd un peu parce que, c'est une nouvelle formule, même s'il y a des bons matchs. À l'arrivée, on retrouvera les gros, je te dis, ils vont trouver la bonne carburation dès le mois de février-mars, même s'ils passent pour certains ric-rac. Paris, je suis un petit peu plus.
Tu vois une qualification du Paris Saint-Germain, toi ?
Ric-rac.
Ric-rac.
24e.
24e, ah oui. Ok.
Ouais. Après, pour qu'ils poursuivent l'aventure, ça c'est autre chose, c'est une autre histoire.
Ouais. Déjà 24e, ils tomberont alors logiquement contre.
Contre le tout premier.
Contre le 9e.
Ouais, contre le 9e, c'est ça, le premier de la. Ouais, ouais. Des...
Le 9e. Ouais, mais ça peut pas être un club français.
Si. Ça peut être Lille.
Si. Ah, si, si, si ça, ça peut être.
Ça peut être. Ah, ah, si.
C'est une question qu'on s'est posée. Il peut y avoir des confrontations.
C'est le 9e contre le 24e, le 10e contre le 23e.
Ah, non, même en 16e, il me semblait que.
Justement, on s'est renseigné, on a cherché et il peut y avoir des confrontations entre clubs de même pays.
Ça serait le meilleur tirage pour le Paris Saint-Germain de tirer une équipe française. Mais attention, si Brest les élimine en Ligue des Champions, ça sera.
En match aller-retour, là, quand même.
Ouais, même en match aller-retour, attention. Alexandre ?
Ouais, la semaine dernière, je vous avais dit déjà la compo du Barça. Je vous l'avais cité, au final, ça s'avérait la bonne. Et je vous avais dit aussi que si Pedri et Casado étaient dans un bon jour, le Barça gagnerait. C'est ce qui s'est passé. Victoire méritée.
Assez difficile quand même. Difficile. Avec des faits de jeu, notamment le premier penalty non sifflé sur Guirassy. On pense en première mi-temps.
Ça se discute, Ça se discute. En tout cas, l'autre, le penalty sifflé, il est indiscutable. Le coup Barça fait une faute stupide. Mais bon, il va apprendre, c'est le métier. Mais au-delà de ça, victoire très compliquée, mais méritée et importante. Et Ferran Torres, tu l'as dit, super sub, qui essuie un peu les critiques et permet à Barcelone donc, de souffler et de rester à la deuxième place. Sinon le Paris Saint-Germain, la semaine dernière par contre je suis au mea culpa parce que j'avais dit que je voyais pas le Paris Saint-Germain gagner avec plus d'un but d'écart.
Parce que
je les voyais pas capables de proposer autre chose de ce qu'ils nous montraient depuis des semaines.
C'est une attaque défense.
mais au final le fait qu'il ait mis, qu'il ait fait confiance à Gonçalo Ramos, oui. Je pense que ça a vraiment apporté quelque chose à Paris. La preuve, il a été buteur et il est sorti à l'heure de jeu.
Sans Dembélé
en plus. Sans trop de surprise, Paris qui finit par s'imposer. Et sinon, la bonne opération, je pense que c'est Lille en termes de club français. Même si Brest, faut bien sûr, c'est incroyable ce qu'ils font Brest, mais ils étaient déjà dans le très haut du tableau.
Ouais, il fallait y rester. Et là, ils y restent.
Ouais, vrai, ils ont réussi à faire ce que Paris n'a pas.
Voilà, le Paris Saint-Germain n'ont pas réussi à faire.
L'état d'esprit quand même, c'est formidable, quoi.
Ah oui,
c'est vrai. Mais Lille, en fait, ils se sont rendus le match compliqué, Lille, parce que le match il était maîtrisé, puis ils se prennent, ils se font égaliser un peu contre le cours du jeu, etc. Enfin, avec un peu de relâchement, mais en tout cas, c'est une victoire importante pour Lille qui permet de revenir dans le top 8. Donc, à eux d'y rester. Et puis, on a un petit peu parlé de Manchester City. De toute façon, on va parler de la Première Ligue après. Ouais. Mais c'est très surprenant quand même le trou qu'il y a à Manchester City. Sachant que c'était pas non plus une très grosse Juventus. Hein. C'était une Juventus qui limite sans trop forcer. Vient gagner contre Manchester City. Voilà, c'est un match vraiment assez étrange.
C'était un match assez étrange, mais quand même réussi de la part des Juventus, des Turinois en tout cas. Bamboli, toi, qu'est-ce que t'en as pensé Juventus, Manchester City, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match?
Non, je trouve que c'est vraiment difficile en ce moment pour Manchester City. Depuis l'absence de Rodri, mais je pense que ça va au-delà de ça. Vraiment, il y a un trou dans l'équipe, même dans le jeu, ils sont méconnaissables. Et vraiment, c'est vraiment difficile pour eux, mais je pense quand même qu'ils vont réussir à se qualifier en barrage quand même.
Toi, tu penses Paris Saint-Germain, Manchester City, pour toi, Manchester City, il n'y a pas de doute, hein, au Parc des Princes. Hein.
En fait, je me disais ça, mais c'est juste qu'ils n'ont pas cette pause-là, ils n'ont pas de trêve hivernale. Et ça, ils peuvent le payer cher parce qu'ils n'ont pas de pause, alors que les joueurs du PSG auront le temps de souffler, alors que les Citizens, eux, devront enchaîner jusqu'au match contre le PSG.
Bah, je pense justement que ça va leur faire du bien.
Ça peut être un avantage.
C'est un double tranchant.
Oui, c'est un double tranchant.
Ça peut être un avantage aussi.
Et avec les blessures, je pense que ça peut leur jouer des tours. Surtout que leur défense, en ce moment, ils ont beaucoup de blessures. Je pense que ça peut. C'est vraiment un double tranchant, mais je pense qu'ils réussiront à gagner contre le PSG. Moi.
Les paris sont pris, en tout cas.
Et c'est vrai, moi aussi. Hein. Je pense que si je devais mettre une pièce, je mets une pièce sur City. Parce que la seule équipe capable de relancer City, c'est bien le Paris
Saint-Germain. Ça condamne définitivement le PSG.
S'ils
vont gagner au Parc, ça les...
City aussi, ça les condamne. City aussi, pratiquement, ça les condamne.
Il y a
un
match nul partout, ça va. Mais alors...
Même le match nul, moi je te dis, le match nul...
Ça dépend des autres.
Mais match nul, ils ne rentrent pas dans le top 24. Hein.
Et non, pas pour l'instant, mais bon, après, il y a Stuttgart.
Oui, mais il y a Stuttgart. À Stuttgart, c'est pas facile, attention. On a vu des équipes plus faibles. On a vu des équipes plus faibles que le Paris Saint-Germain n'ont pas réussi à battre
quand même.
Et juste pour faire un petit aparté, Leipzig, c'est surprenant parce qu'ils ont 0 points.
Ouais.
C'est quand même très bizarre. ils ont 0 point en Ligue des Champions, mais pourtant alors en championnat, championnat ils tiennent vraiment la route.
Oui,
après, ils ont gagné contre Francfort 3-1.
Un petit peu comme Paris.
2-1, mais ils étaient un peu dans le mou aussi. Leipzig, même en championnat, ils étaient dans le mou.
Ouais, mais pourtant, là, ils sont quand même dans
Wolfsburg,
le top 5.
Ils se sont fait corriger. Oui, parce qu'ils avaient super bien commencé, mais ça fait un petit mois que là, ils sont plus dedans, Leipzig. Mais ils commencent à retrouver des couleurs. On y reviendra juste après, de toute façon. Et voilà, tout a été dit sur la Ligue des Champions, qu'on va retrouver le 20 janvier avec des chocs. Et voilà, c'est ce que je disais, hein, Paris Saint-Germain qui sont 25e avec 7 points, donc un match nul, 8 points, ne les classerait même pas spécialement dans le top 24, hein. Et Stuttgart qui sont au coude à coude avec le Paris Saint-Germain,
c'est ça.
Stuttgart aussi auront des coups à jouer, en sachant que Stuttgart vont jouer Slovan Bratislava en Ligue des Champions. Du coup, ils peuvent déjà prendre 3 points.
Ça sent mauvais.
Je te dis pas la situation si pour la dernière journée, les deux équipes sont au même niveau comme ça.
Ah oui, c'est pour
le
ça
compte, si c'est Paris qui se qualifie pas et les trois clubs français qui restent en bas.
C'est ça qui est incroyable. Et puis ils s'envolent le championnat, ils ont 7 points d'avance. Quoi. C'est ça qui est incroyable.
Ah, parce que là, ça va paraître en tout cas super compliqué la tâche et rude pour les Parisiens et aussi pour le. Les Citizens aussi, parce que 2-0, les Citizens sont à peine dans le top 24, ils sont 22e, hein, 22e à égalité de points avec le Dynamo Zagreb, hein, et c'est vraiment la différence de but qui les permet d'être 22e, sinon...
Dynamo Zagreb.
Zagreb, PSV Eindhoven, hein, qui sont devant le Paris Saint-Germain, oui, c'est incroyable, mais c'est ce qui est. Et on rappelle aussi le Brest, hein, qui sont imposés, qui sont 7e, Lille 8e, deux clubs français, voilà. Liverpool, le seul club qui font un 6 sur 6, avec un but encaissé, 13 buts marqués,
ils assurent
le minimum strict, voilà, 18 points. Barcelone, deuxième avec 15 points. Arsenal, troisième, voilà, Bayer Leverkusen à égalité de points. Avec Aston Villa, cinquième, à égalité de points. Aussi avec l'Inter de Milan et aussi avec Brest et Lille. Tous à 13 points. C'est vraiment une différence de but qui change la donne. Mais voilà pour ces équipes-là. Hein. Bayer Leverkusen aussi qui ont fait la bonne opération, qui sont imposés face à l'Inter. L'Inter qui ont encaissé leur premier but en Ligue des Champions dans le Money Time, on peut dire ça comme ça, la dernière seconde. Et Bayer Leverkusen qui font la bonne opération et qui passent 4e. Et ensuite Dortmund 9e avec Bayern 10e. On va pas tous les citer.
Ouais, c'est une formule qu'on découvre et donc on
va... Voilà,
c'est un petit peu inédit, quoi.
C'est ça, c'est un peu inédit. Et franchement, ce qui est inédit aussi, RB Leipzig avec 0 points. Hein. Avec 0 points, même Salzbourg ont plus de points que Leipzig. Hein. Salzbourg ont 3 points. C'est très compliqué. Leipzig, ils sont officiellement éliminés. Hein, officiellement. Et voilà pour ces équipes-là. Et voilà, c'était tout pour la Ligue des Champions. On va se faire une petite virgule avant d'enchaîner avec la Ligue Europa, avec notamment l'Olympique Lyonnais et les autres équipes. Lyon qui se sont imposés face à Francfort 3-2. Lyon qui font la bonne opération et qui sont maintenant dans le top 4 de cette Ligue Europa. Hein, Lazio premier avec un 6 sur 6. Lazio aussi qui se sont imposés face à l'Ajax. Nice qui n'y arrive pas du tout.
C'est fini pour Nice.
C'est fini, hein, 35e avec 2 points. C'est très compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Philippe ?
Oui, non, bah, ça fait quelques journées où les carottes sont cuites pour Nice. Hein. Ils ont perdu beaucoup trop de points. C'est fini, quoi. C'est fini.
Ouais, bah, là, c'est clairement fini. Ouais. Hein. 2 points. Ah non, ils peuvent plus rattraper.
Ah non, ils peuvent plus, c'est fini.
Bah, comptablement, apparemment, ils peuvent encore rattraper, mais c'est impossible.
Ouais,
c'est impossible. Non, non, même comptablement, c'est plus possible, en fait.
Ouais.
Parce que les autres équipes ont 7, mais...
Ça... Voilà. En plus, il doit y avoir... Après, le goal average qui ne doit pas être en leur faveur, donc...
Ah non, le goal average, c'est... ils sont à moins 8. Hein.
Ouais, donc...
ça paraît non, compliqué
Nice,
pour
Nice
les Niçois.
Ouais. Nice, c'est fini.
Oui. Et Lyon quand même, hein, qui réussit.
Lyon, par contre, c'est bon, ils iront en 8e directement.
Oui, bah, c'est pas sûr encore.
Ouais,
attention, hein, parce qu'il y a Tottenham qui sont 9e avec 11 points, et ça joue à 2 points, quoi. Attention.
Après, Lyon se déplace à Fenerbahçe, qui est pas très bien en Ligue Europa, qui est bien en Turquie, mais qui est pas très bien en Ligue Europa, et ils reçoivent Ludogorets pour leur dernier match.
Ouais,
donc normalement, ça devrait le faire.
Pas me dire que...
Sur ces deux matchs, ils vont sans doute prendre au moins 3 points, et c'est terminé.
Ouais.
Bah, même s'ils prennent que, s'ils prennent même 3 points, je ne sais pas si ça sera terminé. Attention, parce que si Tottenham enchaîne aussi avec 2 points, ils leur passent devant. Il y a l'Ajax, il y a Rangers aussi qui peuvent leur passer devant.
Il faut voir le programme de ces équipes-là.
C'est mais... ça, exactement. Mais voilà, en tout cas, ça fait quand même une bonne opération pour les Lillois. Et de l'autre côté, en Ligue Conférence, Chelsea qui enchaîne. Hein. Bon, pour les Lyonnais, bien évidemment, Léo, excuse-moi, tu veux sûrement t'exprimer. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match
C'était un match très cohérent. La première mi-temps était aboutie. On avait... prévenu sur le potentiel offensif et le potentiel tout court de l'Eintracht Francfort qui a été contrainte à défendre sur ce match parce que le plan de Pierre Sage a fonctionné, parce que les joueurs physiquement ont tenu la route et ont imposé un vrai défi physique. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des joueurs de l'Olympique Lyonnais courir les uns pour les autres et pas courir l'un après l'autre, les uns après les autres. Je trouve qu'il y a des symboles d'une vraie équipe qui est en train de se créer, comme Fofana qui se moque de ses adversaires. C'est pas une image qu'on a déjà vue cette saison, ni la saison dernière d'ailleurs. Des joueurs qui... quand il y a des zones de friction, des moments de tension sont là les uns pour les autres. Moi, j'aime bien cet état d'esprit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Lyon, qui est quand même réputé pour être un club. Le surnom de l'OL, un des surnoms, c'est quand même le FC Castagne. Parce qu'il y a eu des antécédents depuis de nombreuses années. Et ça faisait trop longtemps qu'on ne voyait plus ça. Alors, je ne parle pas de Castagne ou non, mais juste d'un état d'esprit. Et je pense que Pierre Sage a réussi à insuffler ça à cette équipe. Parce qu'on rappelle qu'il y a un an, l'OL était en train de célébrer sa victoire contre Nantes, il me semble. S'il y a un an, on nous avait dit que l'OL serait 4e ou 5e de Ligue 1 et pratiquement qualifié directement pour les 8e de Ligue Europa, je pense que personne n'y aurait cru. Voilà, le club remonte petit à petit. Maintenant, il va falloir capitaliser là-dessus dès janvier, poursuivre la route, parce que je pense qu'il y a la place d'aller chercher un podium et même une deuxième place, et de bien figurer en Ligue Europa. Voilà, il va falloir continuer, travailler et voir aussi comment se passe le mercato hivernal, parce qu'il faut dégraisser, il faut trouver des fonds.
Il faut dégraisser, il faut trouver des fonds. On espère en tout cas que Cherki va rester du côté des Gones. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre ?
Bah, moi, je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Léo. Et je suis d'autant plus déçu de par le match qu'a fait Lyon hier quand on voit ce qu'ils ont fait contre Francfort. Parce que Francfort, c'est quand même, faut le souligner, une vraie bonne équipe de Bundesliga qui fait vraiment un bon début de saison. Et ils ont réussi à tenir tête à Francfort, et franchement moi je trouve ça bien parce que c'était une victoire vraiment qui était importante et qui permet de les mettre sur la bonne route pour la qualification. Et je trouve ça bien aussi le message envoyé par Pierre Sage depuis le début de la saison qui s'en est pas caché, qui lui joue la Ligue Europa, alors que les clubs français ces dernières années avaient souvent tendance à délaisser cette compétition, et lui il est sûr de son groupe, il est sûr de son effectif, il est sûr de ses forces, donc du coup il sait qu'ils peuvent jouer sur les deux tableaux. Et je trouve ça bien que voilà, qu'ils aient emporté ce match contre Francfort. Et comme je l'ai dit, il reste Fenerbahçe à l'extérieur, ça va être compliqué mais pas impossible, et il reste Ludogorets à domicile. Donc là, ça devrait normalement faire filoche.
Ça reste, comme tu le disais, hein, les Lyonnais qui font une bonne opération face à Francfort. Mais Francfort qui ont joué aussi sans leur homme fort hein, du moment, Marmouche qui a été sur le banc. Moi, je pense que c'est un joueur qui fait une différence incontestablement et qui est le meilleur joueur de Francfort
ça, oui,
en ce moment.
Voire de Bundesliga.
Oui. Et du coup, le laisser sur le banc et ne pas jouer ce match, pour moi, c'est déjà se mettre en handicap. Et oui, ça c'est pas la même saveur. Voilà, c'est pas la même saveur du côté des Lyonnais. C'est pas la même saveur, je pense, en tout cas, du côté des Lyonnais. Et moi-même, j'aurais aimé voir deux équipes s'affronter au plein potentiel avec un Marmouche sur le terrain, parce que Marmouche, il bonifie pas mal de ballons et il change pas mal de choses. On l'a vu notamment avec son entrée. Hein. Il est rentré, il a été sevré de ballons, mais le seul ballon qu'il touche, il le bonifie et il réussit déjà à marquer 3-2 pour enflammer la fin de rencontre. Bamboulé, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match Lyon-Francfort et de l'entrée de Marmouche ?
Une belle performance des Lyonnais qui perdaient 1-0 et qui a su bien revenir avec, à 3-2 à la fin du match. Et vraiment Cherki quand même qui fait de bons matchs en fin de saison. Moi, je l'avais connu saison dernière avec un comportement un peu limite, quoi. Et qui se donnait pas tout le temps à fond. Mais là, vraiment, cette saison, on voit ses petits coups de génie. Et ça aide vraiment l'OL. Malik Fofana aussi, qui n'est pas dans une mauvaise forme. Il est plutôt bon aussi. Et ça a été un choix un peu difficile quand même pour moi de voir Marmoush sur le banc. Je pense que c'était dû au match de ce week-end contre Leipzig. Mais j'aurais aimé aussi le voir titulaire pour voir une vraie confrontation entre les deux équipes.
Merci, Bambori. On va enchaîner, on va se faire une petite pause avant d'enchaîner avec la Conference League hein, très rapidement. Petite pause et on arrive.
Hey, retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour à 21h21 dans l'émission Au bout du foot hein, avec Chelsea qui sont imposés face à Astana avec une équipe remaniée hein, du qui a mis un doublé et Chelsea qui vont très très bien hein, qui a réussi à enchaîner avec deux équipes différentes sur les deux tableaux à merveille hein, quelque chose à dire?
Chelsea grand favori de la compétition, oui. Peut-être la Fiorentina qui pourrait leur poser quelques problèmes. Mais normalement, il y a pas de. Tu regardes tous leurs adversaires, il n'y en a pas un qui est en mesure, honnêtement, de les inquiéter. Avant, oui, peut-être les demi ou la finale, mais ça devrait être un parcours de santé pour les Blues.
Franchement, quand même, c'est un peu décevant le niveau de la Conference League. Est-ce que la nouvelle formule qui a été mise en place n'enlève pas aussi du spectacle aux autres équipes? Parce qu'on pensait, hein, Ligue Europa aussi, les troisièmes de Ligue Europa descendaient en conférence. Ça faisait monter un peu le niveau.
Je trouve ça bien que ce soit comme ça. Parce que la Conference League, moi, je trouve que c'est une bonne compétition. Parce que ça permet aux clubs de vraiment de troisième zone déjà d'avoir plus de revenus et en plus de ça je sais pas, moi j'aime bien, ça permet de voir des championnats qui sont peut-être un peu plus exotiques, un peu plus sous-cotés, de voir des bons petits joueurs aussi qui permettent de se dévoiler. Donc moi c'est une compétition que je trouve ça bien qu'elle puisse exister.
Ouais. Merci Alexandre. Philippe n'a pas l'air du même avis.
Hein, moi je pense que c'est la Coupe d'Europe des 6e, 7e de championnat.
Ça t'intéresse pas ça.
Ouais, non, mais je veux dire, après pourquoi pas faire des Coupes d'Europe pour le 10e, 11e, 12e des championnats. Je veux dire, ouais, je sais pas ce que ça apporte grand chose. On suit d'assez loin parce qu'il n'y a plus de club français. Lens s'était fait éliminer en tour préliminaire.
Moi, le vrai problème, c'est ça, c'est que Lens s'est fait éliminer
en tour préliminaire. Je crois que c'était Nice qui avait été éliminé en demi-finale de cette compétition il y a quelques saisons.
L'OM aussi, contre Feyenoord,
en demi-finale,
je crois. Je ne sais pas si ça apporte grand-chose. Moi, je pense que je te dis, c'est la Coupe d'Europe des 6e, 7e. Je ne sais pas si c'est utile d'avoir une Coupe d'Europe des 6e, 7e. Voilà.
Si, pour les 6e et 7e.
Ouais, c'est tout.
Tu demandes aux participants.
Et pour faire rentrer un peu d'argent. Ça, d'accord.
Voilà. Oui, c'est voilà. Ça.
Après, sur le niveau du jeu, ça ne va pas apporter grand-chose.
Ça laisse à désirer.
Philippe.
Merci, en tout cas. On va enchaîner avec Chelsea. Comme on le disait si bien, Chelsea qui enchaîne hein, sur les deux tableaux hein, et qui peuvent se reposer, notamment en semaine. Du coup, ils jouent chaque semaine un peu en Première Ligue et Chelsea qui sont les dauphins, l'équipe un peu fête qui viennent faire les fêtes troubles qui arrive deuxième après Liverpool hein, qui s'impose face à une équipe de Brentford. Chelsea qui sont tout simplement ces derniers temps époustouflants et c'est tout à leur honneur. Les Blues qui sont deuxième de Première Ligue. La première ligue dominée pour l'instant par Liverpool qui sont premiers avec deux faux pas, on peut dire, avec deux matchs nuls, même s'ils ont un match en retard. Mais leurs concurrents ne leur mettent pas plus que ça la pression, en tout cas que ça soit du niveau du côté d'Arsenal ou du côté des Citizens. C'est très très compliqué pour ces équipes là Bambouri, toi qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée de première ligue et Chelsea deuxième qui arrive, qu'on les voyait pas hein, au début de saison, c'est pas eux qui qu'on les citait pour les favoris au titre, mais est-ce qu'ils peuvent concurrencer réellement Liverpool et essayer de leur arracher le Graal, pourquoi pas?
Déjà pour cette journée, ils font la bonne opération parce que c'est la seule équipe qui s'impose. Arsenal fait nul contre Fulham, si je ne me trompe pas.
Oui, 2-2.
Liverpool aussi qui fait nul. Et City
C'était Liverpool face à Fulham.
Ah oui, Liverpool face à Fulham. Arsenal aussi qui a fait nul.
C'était face à Everton, 0-0.
Oui, et City qui n'arrive pas à s'imposer. Donc ça laisse un peu d'espace pour Liverpool, mais Chelsea qui reviennent très bien. On ne les voyait pas aussi haut. On parlait plus d'Arsenal, de Manchester City et de Liverpool. Mais ils viennent jouer les troupes faites, comme tu l'as si bien dit. Et ils sont actuellement deuxième. Mais je ne pense pas qu'ils pourront jouer le titre parce que face aux concurrents directs comme Arsenal, Liverpool ou Manchester City, je ne les vois pas gagner en fait. Je ne pense pas qu'ils sont assez solides pour ça. Mais on verra bien. Mais pour moi, ils ne pourront pas... Même le podium, je pense que ça va être dur pour eux.
Ah bon, pourtant, ils ont montré du caractère. Hein, parce que face à Tottenham, ils étaient en train de perdre 2-0. Ils étaient dominés de la tête aux pieds. Avec Cucurella qui glissait sur la pelouse. Mais qui sont revenus hein, et qui ont montré cette abnégation aussi. Et ce courage qui montre un autre visage. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de Chelsea jouer comme ça. Avec le cœur et jouer à fond. Même avec ce que tu as vu dernièrement, tu penses que Chelsea, et en voyant aussi ce que font les concurrents, parce que c'est surtout ça, tout le monde ne gagne pas et ils sont en train d'enchaîner. Mais Chelsea, eux, le font si bien de leur côté, tu penses que non, ça va être compliqué.
Je pense que ça va être compliqué parce que je les vois faire beaucoup de faux pas en deuxième partie de saison, et surtout contre les concurrents, par exemple, comme Manchester United, je les vois pas forcément s'imposer, parce que dans leur jeu, en fait, je pense que c'est très limité, quoi. Ça joue sur un fil, j'ai l'impression. Et je pense que s'ils ont un blessé, par exemple Cole Palmer, ça peut leur faire très mal. Et avec ça, ils ne pourront pas performer. Mais pour le titre de Premier League, bon, comme je t'avais dit avant la saison, je t'avais dit que c'était City qui, pour moi, je voyais gagner. Mais là, je pense que ça sera Liverpool. Ils sont assez bons en Premier League.
T'as finalement accepté.
Voilà, ils ont trop de retard, Mono. Ouais.
Avec la blessure de Rodri et vraiment leur performance vraiment médiocre. Je pense que Liverpool, cette saison, ils prendront la Première Ligue.
Après, on sait bien que la Première Ligue, rien n'est joué. Et on non, voit maintenant, la saison est longue. On voit même, parce que c'est une équipe encore, c'est un championnat qui reste encore sous le format des 38. Hein. Mm-hmm. Maintenant, c'est trois championnats sur les cinq grands championnats qui vont jusqu'à 38 journées.
Il n'y a rien qui est joué, moi, je pense.
Toi, tu penses qu'il n'y a rien qui est joué ?
Il n'y a rien qui est joué. Hein. Même Arsenal, ça peut... Bon, ils ont 6 points de retard. La saison
avec un match en moins.
Oui, on est justement.
Pour Liverpool.
On est qu'au mois de décembre, donc moi je pense que ouais. Non, on peut avoir un match à 3 comme il y a eu l'année dernière avec Manchester City qui avait fini par prendre le dessus. Donc ouais, il y a rien qui est joué. Chelsea.
Liverpool.
Ils ont leur chance.
Ils
peuvent coincer aussi. Hein. Ils peuvent coincer. Ils peuvent avoir un petit coup de mou quand même dans la saison, y compris en Coupe d'Europe.
Hein. Avec Diogo Rota qui est de retour, hein, et notamment il rentre et il marque. Et Diogo Rota, c'est l'un des joueurs les plus adroits devant le but que je connaisse, en tout cas surtout en Première Ligue.
On est qu'au mois de décembre, quoi. On est qu'au mois de décembre. Ouais.
Surtout la gestion d'Arnaud Slot, en fait. La gestion, hein. Et un coup, en fait, tu sais jamais qui est-ce qui va t'aligner. Salah à droite, ça c'est une certitude, mais le reste, c'est improbable. Tu sais pas si Luis Diaz va être à gauche, si ça va être Gakpo, si ça va être Nunes, tu sais pas qui va jouer en pointe. C'est Il varie, et franchement, cette alchimie, elle se fait tellement bien, il n'y a pas de frustration,
bien,
même au milieu de terrain,
McAllister,
Bosley, franchement, ça roule. Ouais. Hein. En défense, Konaté qui se blesse, qui est un des meilleurs défenseurs du moment d'Europe, Gomez qui vient et qui assure derrière, même si c'est plus ou moins. Léo, toi, qu'est-ce que t'en penses un peu de tout ça?
En début de saison, je pronostiquais Liverpool champion, je vais rester sur mon a priori. Je pense que en effet la saison est longue et qu'on en saura plus au mois de janvier, parce que le Boxing Day, on connaît tout le... Je crois qu'il y a 6 ou 7 matchs, voire 8 même en l'espace d'un mois. Ça va tirer quelques enseignements. Mais par exemple, ce week-end de Première Ligue, il est un petit peu à l'image de ce qu'on a eu en Ligue 1. Liverpool a été accroché par Fulham, mais ni Manchester City ni Arsenal n'ont su en profiter. Je pense que Liverpool a pour lui... d'être un club qui est très bien structuré, dont l'effectif ne change que très peu, dont les préceptes sont connus de tous les joueurs, du meilleur joueur de l'équipe jusqu'au jeunes du centre de formation. D'ailleurs, quand tu vois des jeunes joueurs comme Connor Bradley, comme Curtis Jones qui entrent ils savent ce qu'ils ont à faire.
Elliot.
Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils réussissent à se mettre au niveau de leurs camarades et au niveau de la première ligue. Je pense que moi, Liverpool, aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe sur ce début de saison, sur ce qu'elle a montré, sur sa profondeur d'effectif, sur ses résultats, sur sa constance, sur la manière dont est géré le club, sur... C'est tout un ensemble de choses. Je pense qu'ils vont aller au bout parce qu'ils dégagent une puissance collective, une puissance individuelle. Ils ont le meilleur joueur de première ligue, si ce n'est du monde, dans leur rang. Ils ont certainement la meilleure charnière d'Europe aussi quand Konaté est disponible avec Van Dijk. Ils ont des top joueurs à toutes les lignes. Il n'y a pas de point faible, même Keller, qui n'est pas forcément le titulaire habituel, il tient largement la route et il relègue même Alisson sur le banc.
Voilà, Alisson qui a retrouvé sa place de titulaire.
Ouais, c'est comme pour le cas d'Ederson à City, il y a du changement, mais je pense que Liverpool va aller au bout, en première ligue en tout cas.
Merci Léo. On peut aussi, Liverpool qui sont très solides en tout cas de ce qu'on voit, et Tottenham qui sont imposés face à Southampton 5-0. Et la surprise dans le derby mancunien, Manchester City qui sont tout simplement battus par Amad Diallo et son équipe Manchester United dans le temps additionnel et face à des grosses erreurs défensives aussi. Hein, Matheus Nunes qui rate un ballon en retrait et ensuite qui revient comme un bourrin pour le faucher dans la surface et qui accorde le pénalty Bruno Fernandes qui le transforme sans vraiment trembler. Et Amad Diallo dans le temps additionnel, dans limite du temps additionnel qui vient les punir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est le reflet de ce que City donne ces derniers mois. City, parce que c'était un match... En fait, en dehors du résultat, le match était... Franchement, le match n'était pas bon déjà en termes d'intensité, en termes de tout, parce que même United, c'était pas bon dernièrement. Et là, franchement, c'est...
Bah, je suis moyennement d'accord. Je voulais en parler, justement, mais je suis... Parce que, franchement, moi, je suis Pep Guardiola, là, je me remets vraiment en question. Enfin, je sais pas quoi faire. Je dors très très mal parce que en fait, je sais pas si vous avez vu le match, mais Manchester City domine le match. Vraiment domine le match. La première mi-temps, elle est clairement Citizen, mais un peu comme leur précédente rencontre. Hein. Ils ont la maîtrise, ils ont le ballon, ils ont les occasions. Enfin,
c'est stérile. Ils ont pas vraiment d'occasion.
Ils ont des situations en tout cas. Ouais. Ils sont clairement dans le tiers des Red Devils. À part par intermittence, Amad Diallo, on l'a vu, il était plusieurs fois hors-jeu. Par intermittence, les Manchester United arrivaient à atteindre un petit peu la cage d'Ederson, mais c'était vraiment par intermittence. Manchester City fait une bonne première mi-temps, il maîtrise. Ensuite, ils réussissent en deuxième mi-temps à marquer par Guardiola sur corner. Là, on se dit que tout va bien. Et petit à petit, Manchester United commence à aller vers le camp de Manchester City. Et là, il y a une erreur qui est monstre. Vraiment une erreur qui est incompréhensible de Matheus Nunes. C'est là que je me dis que Pep Guardiola doit vraiment faire des cauchemars. Parce que comment tu peux plomber ton équipe comme ça, quoi? Le mec, il te fait une passe en retrait qui est catastrophique. Et après, il veut rattraper son erreur, mais il fauche Amad Diallo littéralement. Et ça, pour moi, c'est ultra révélateur de ce qui se passe à City, en fait. C'est que c'est vraiment un gros problème mental, qu'il y a un plafond de verre qui commence à s'installer. Et au final, là, c'est incompréhensible, en fait, cette gestion de fin de match de Manchester City. Elle est vraiment cataclysmique. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, c'est inexplicable, en fait, parce que Manchester City domine le match, ou en tout cas maîtrise un peu le sujet. Et au final,
ils se heurtent face à la réalité un peu.
Ils se font dessus totalement. Parce qu'ils ont peur, limite, ils étaient limite surpris de mener au score aussi longtemps. C'est ultra surprenant.
On a vu Pep Guardiola qui était content, hein, même à la mi-temps, qui faisait des signes à la caméra à la 45e minute.
Non, je rectifie, Guardiola, c'est en première mi-temps qui marque.
Ouais.
Mais enfin, tout ça pour terminer, que c'est vraiment ultra surprenant. Et au final, ils donnent le match à Manchester United. Parce que Manchester United, on avait l'impression, limite, ils se contentaient du match nul. Et au final... Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment incompréhensible. Et Amad Diallo, par contre, gros match de sa part, même s'il était un petit peu hors-jeu en première mi-temps. C'est vraiment lui le joueur percutant. Højlund aussi, j'ai bien aimé son match. Et l'entrée de Kobbie Mainoo aussi était intéressante. Enfin, en tout cas, Manchester United a fait ce qu'il savait faire. Hein, mais, Vraiment, c'est surprenant de la part de Manchester City.
On aurait pu venir surtout sur les choix de Amorim, hein. Amorim qui avait infligé déjà, qui bat Pep Guardiola en moins d'un mois, hein, avec déjà avec le Sporting 4 buts à 1, et là avec Manchester United 2 buts à 1, en se séparant de deux joueurs qui étaient, je dis bien, les hommes forts de cette équipe d'United, hein, Garnacho et Rashford, qu'il a évincé du groupe pour cette rencontre-là. Léo, toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Il s'est justifié en conférence de presse en disant que la réalité d'une semaine n'était pas celle d'une autre, sauf qu'aujourd'hui de nouvelles informations sont tombées comme quoi il voudrait vraisemblablement faire partir Rashford cet hiver.
Ça, c'est pas une surprise, ça,
voilà, je pense que
Paris apparemment se positionnerait,
ouais, pour une somme aux alentours de 50 millions. Je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle pour Rashford, qui est un des joueurs les plus capés de l'histoire du club. Hein.
Un talent gâché quand même. Hein. On reste sur...
Après, il y a eu des blessures aussi.
Il y a eu des blessures, mais les fois où il était au top, on pensait que rien ne pouvait l'arrêter. Hein.
Il est encore jeune, c'est pour ça que c'est bien qu'il parte, moi, je pense. Ça va lui faire du bien.
Mais mentalement, est-ce que c'est bon ?
C'est un super joueur. Après, effectivement, qui est marqué par l'inconstance, qui est marqué par les blessures. Après, peut-être qu'évoluer dans un championnat ou dans une équipe avec moins de pression, ça lui conviendra mieux en l'état. On sait que c'est un joueur qui a aussi beaucoup d'engagement en dehors des terrains. Alors est-ce que ça pèse sur sa manière d'appréhender le football ? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais on peut en parler parce que je pense que c'est aussi important. Et concernant Garnacho, oui, Garnacho, moi, c'est un joueur qui m'a jamais impressionné particulièrement. C'est un bon joueur, mais...
Franchement, c'est comme Anthony, c'est des
intermittents. Non, je suis désolé, mais je peux pas vous laisser dire ça.
Pour moi, c'est
Garnacho,
un
intermittent du spectacle. Oui, en plus, tu t'oses le comparer à Anthony. Non, je suis pas d'accord du tout.
Pour moi, c'est un bon joueur, mais voilà, on le voit une fois, il sort de son chapeau une fois tous les 10 matchs, et puis pour un club comme Manchester United... De cette stature et avec ses ambitions, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant.
Et juste pour revenir sur Manchester City, on entend beaucoup de parler de est-ce que Pep Guardiola doit démissionner ou doit être viré. Mais pour moi, franchement, là, ce serait vraiment une erreur pour Manchester City de faire ça. Parce que certes, c'est une très mauvaise passe pour Manchester City, on est tous d'accord. Mais au vu des travaux réalisés par Pep Guardiola, on a le droit de lui laisser le bénéfice du doute. Et c'est pas parce qu'il fait une demi-saison qui est vraiment mauvaise, que ça y est, on doit tout remettre en question et qui devrait partir. Franchement, ouais, là, je trouve que ce serait vraiment ingrat. Et la preuve, les dirigeants, au final, ils lui ont donné confiance puisqu'ils l'ont prolongé, mais c'est les observateurs qui se posent la question. Mais pour moi, ce serait vraiment une erreur et ce serait injuste de faire ça.
Pour moi, tout simplement, Pep Guardiola devrait partir. Hein. De lui-même, il devrait partir. Non, parce que je pense qu'il arrive à bout de souffle avec cette équipe. Il le dit lui-même, je n'arrive plus à parler à mes joueurs, je ne sais pas quoi leur dire, je n'arrive pas à trouver les mots.
Non, mais il va trouver quelque chose. Je suis d'accord avec Philippe.
Ça paraît compliqué.
Manchester City va se ressaisir.
On parle de quelqu'un qui a remporté quand même 6 des 7 dernières premières ligues. Il faut se rendre compte de la performance.
Avec les moyens mis en œuvre, certes, mais avec en plus tout le temps un jeu proposé qui était absolument incroyable. Donc moi, je pense qu'il va trouver, il va trouver la bonne solution. Et il faut dire aussi que l'effectif, il est quand même un cran moins fort que les effectifs de Manchester City.
T'as des joueurs qui vieillissent aussi.
Et voilà, c'est une fin de cycle tout simplement.
Mais moi, je trouve, que ce dont on est en train de parler, ça se retranscrit par notamment moi, Jérémy Doku. Il est en train de nous faire une Grealish 2.0.
Oui. J'adore Grealish, ce joueur. Il n'a pas marqué en 2024 avec Manchester City.
44 matchs.
C'est incroyable.
J'adore ce joueur, Doku.
Ah oui, carrément, Doku, il nous fait une Grealish 2.0. Le seul joueur remuant en attaque que tu vois, c'est quand Doku est sur le terrain. Parce que Savinho, il dribble, mais il dribble dans le vent.
Bernardo Silva, il est méconnaissable.
T'as vu son match
Kevin De Bruyne, il n'est pas bon.
Contre United. Il fait un pas en avant, deux en arrière et une passe latérale.
D'accord, mais c'est le seul match où il n'est pas bon. J'ai envie de te dire, les autres matchs, Doku, c'est le seul joueur de Manchester City.
De plus en plus,
qui
il
est
fait
meilleur.
Ça m'énerve qu'un
Foden
joueur
aussi,
comme ça...
Il est méconnaissable. Et c'est là aussi que... Ça rejoint ce que je vous disais, c'est que le jeu que les... entre guillemets, les entraîneurs catalans veulent mettre en place, il faut des ailiers qui sont capables de percuter et de créer de l'espace. Et au final, si Jérémy Doku, il n'arrive pas à éliminer son joueur en 1 contre 1, et à rentrer dans la surface de réparation ou à créer du déséquilibre, mais au final, il n'y a pas de mouvement en fait.
Pour toi, il n'y arrive pas. Bamboulé, est-ce que tu partages
leur avis ? En ce moment, il n'y arrive
même
pas.
En ce moment, Bamboulé, est-ce que toi tu partages leur avis ? Moi, je regarde tous les matchs de Manchester City et je ne comprends absolument pas vos avis sur ce match. Après, peut-être je suis la seule personne autour de la table à ne pas comprendre.
J'adore Jérémy Doku.
Non, mais ça n'a rien à voir avec adorer un joueur ou pas. Moi, c'est juste en termes de performance, je le vois, même s'il y a des stats là où on peut voir ses duels gagnés dernièrement.
C'est le meilleur ailier, je suis d'accord avec toi.
Non, mais Bamboulé, toi, tu partages ta vie là ? Doku, pas bon ces derniers matchs ?
Non, surtout la comparaison avec Grealish, je suis pas
d'accord.
Oui, là,
d'accord. Il a
abusé. Vraiment, Doku, même pendant son absence, on a vraiment vu un City où c'était difficile. Dès qu'il est revenu, on a vu, il rapporte cette vivacité-là à l'équipe et à l'attaque. Et sans lui, ça serait vraiment difficile. Grealish, c'est vraiment un autre cas. Je pense que ça fait même 45 matchs avec celui d'hier sans marquer. Mais Doku, pour moi, c'est l'un des meilleurs ailiers. Déjà, c'est le meilleur ailier de l'équipe, mais aussi c'est l'un des meilleurs ailiers aussi en Europe pour moi.
Oui, c'est le meilleur ailier de l'équipe, mais...
Philippe, tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce que tu
Je pense qu'il... c'est sûr que c'est pas le grand Manchester City, il y a un passage à vide, mais il suffit d'un ou deux bons résultats. Et la machine, elle se remettra en route.
Il y a eu un bon résultat, le 3-0. On s'est dit, c'est peut-être la rédemption.
Mais juste après. Il suffit qu'il y ait un ou deux bons. J'ai dit deux.
Donc deux, on va dire deux.
Deux. Et je pense que la machine, elle peut repartir. C'est pas toi que je vais apprendre que investir de foot, c'est fragile. On l'a vu pour des équipes, y compris Lyon. Hein. Et puis, de pas grand-chose, c'est reparti. Donc,
il y aura le mercato d'hiver, peut-être qu'il y aura des départs, des arrivées, on sait pas.
Ouais, mercato d'hiver, en général, il n'y a jamais de gros changements quand même.
Puis ils ont intérêt à se ressaisir, parce qu'on parlait tout à l'heure de la Ligue des Champions. Oui. Le match de Paris, c'est le premier d'une
c'est
série.
Ça, le 20 janvier.
Ils vont affronter Aston Villa, Liverpool.
Il suffit qu'ils réussissent ce match déjà. Contre Paris, il suffit qu'ils réussissent ce match sur Paris, et puis dans leur lancée. Un ou deux bons matchs dans le championnat anglais. Moi, je ne serais pas si pessimiste que ça. Bon, ils ne vont pas jouer le titre.
Il va y avoir la Cup en
c'est
plus.
C'est fini, oui. Il y a trop de... ils peuvent très bien gagner la Cup, par exemple.
Mais ils vont pouvoir surtout en profiter pour
très bien. C'est ça. Donc, il n'y a pas grand-chose dans l'investir. Il y a des petits déclics et il manque souvent pas grand-chose. Donc, je ne serais pas aussi inquiet que cela. Et je pense qu'ils peuvent redresser la situation. Bon, ils ne joueront pas le titre, ils ont perdu trop de points, mais ils peuvent revenir dans les trois premiers du championnat et puis effectivement gagner la Cup et puis faire un bien meilleur parcours en Ligue des Champions.
Merci Philippe. Ouais. On va revenir rapidement sur les résultats à Nottingham Forest qui font la bonne opération de cette journée aussi avec Chelsea. Nottingham Forest qui s'impose face à Aston Villa et qui intègre le top 4 devant Manchester City. Hein. Et Arsenal 0-0 face à Everton. Liverpool 2-2 qui se prennent un carton rouge par Robertson qui prend un carton rouge dès la 17e minute. C'était très compliqué pour les Reds, mais qui ont réussi à revenir 2-2. Newcastle qui écrase Leicester, rien ne va plus du côté de Leicester, 4-0. Et on va revenir sur le classement. Liverpool premier avec 36 points et un match en retard sur les autres concurrents. Chelsea avec 34 points, Arsenal qui complète le podium avec 30 points, Nottingham avec 28 points, Manchester City 5e pour l'instant, la Ligue Europa, avec 27 points. Bournemouth qui sont 25 points, avec 25 points, 6e. Et Aston Villa qui complète la 7e place, ensuite avec les autres équipes. Et en bas de tableau, Leicester qui sont à la porte des relégations, avec 14 points. Ipswich avec 12 points. Les Wolves avec 9 points, avec le coach qui a été limogé aussi, parce que... c'était très compliqué ces derniers temps. Southampton, le coach aussi, a été aussi limogé avec 5 petits points qui sont 20e. Voilà pour la première ligue. On va se faire une petite virgule avant d'enchaîner avec le Ballon d'Or africain. Le Ballon d'Or africain, quels sont vos favoris hein ? On a vu Mohamed Salah qui n'a pas fait partie des nominés pour le Ballon d'Or africain, mais qui fait partie du top 11, en tout cas d'après les derniers résultats. Quels sont vos favoris ?
Ça y est, c'est Lookman qui a été élu.
Tant mieux.
Je trouve que c'est le résultat le plus logique.
Oui, tant mieux.
Vice-champion d'Afrique avec le Nigeria, auteur d'un triplé en finale d'Europa League, vainqueur du coup de l'Europa League. Il me semble qu'il a fini aussi vice-champion de, euh, en Coupe d'Italie.
Quelle saison, Bergame ?
Saison exceptionnelle de Bergame, encore une fois, j'ai envie de dire même. Lui, c'est vraiment un excellent joueur, toujours dans les grands rendez-vous. Contre le Real Madrid, il a encore fait un énorme match. Il viserait un retour en Première Ligue, visiblement pour la saison prochaine. Alors à voir, parce que tout ce qu'il a déjà fait en Première Ligue, par contre, c'était vraiment pas très bon. Peut-être que l'Italie est un championnat qui lui convient très bien. Il a un rôle dans une équipe aussi qui lui convient. Donc à voir son futur plus ou moins proche.
Merci. Ah, je suis content, moi, c'était mon favori. Donc voilà, parfait.
Parfait.
Le héros de la grande finale de la Ligue Europa contre les Leverkusen. Donc c'est impeccable, c'est bien.
Merci. Et toi, Alexandre ?
Moi, je suis ultra content pour Lookman, parce que c'est un joueur que je kiffe vraiment. Ah, en plus, il a marqué un triplé en finale d'Europa League. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Il fait quand même une bonne canne avec le Nigeria. Et en plus, bon après, c'est vrai qu'il y avait Hakimi qui fait quand même un bon début de saison.
C'est un défenseur, donc fatalement...
C'est vrai. Et il y avait mais la non-nomination de Mohamed Salah, elle est incompréhensible. Même s'il avait fait une saison moins bonne la saison dernière, je trouve ça quand même incompréhensible qu'il soit pas nominé. Simon Adingra, bon, c'est logique qu'il soit pas élu. Donc Lookman, je trouve ça très bien. Et juste mention spéciale pour bien évidemment la Côte d'Ivoire, qui est la nation, enfin l'équipe de l'année africaine.
Pourquoi c'est mérité?
Ouais, ils ont gagné la CAN. Donc
Ils
ont gagné la CAN avec un scénario exceptionnel.
Avec un scénario exceptionnel. C'est ça qui rend la victoire encore plus belle. Pas de problème. Ce sont les champions d'Afrique incontestablement.
Comme le scandale à la limite, c'est les joueurs du 82. Si vous regarderez le 11, il est scandaleux. Mais la Côte d'Ivoire 100% méritée, et Merce Faye bien évidemment mérité, et Ronwen Williams aussi, meilleur gardien, c'est mérité, le gardien de l'Afrique du Sud et des Mamelodi Sundowns.
C'est vrai qu'il avait fait une super canne, hein.
En plus il est avec les Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, c'est mérité.
Bambolé, toi, est-ce que tu partages cet avis de tous ces avis autour de la table sur le Ballon d'Or africain et sur la meilleure équipe, la meilleure nation africaine?
Selon moi, très mérité déjà pour Lookman, qui a fait une très grosse saison la saison dernière et qui nous a tous surpris en finale de Ligue Europa, surtout en mettant un triplé contre Leverkusen qui était invaincu depuis 51 matchs sur toute la saison. Moi, ça m'avait vraiment surpris.
Et des beaux buts en plus.
Ça m'avait vraiment surpris. Et après aussi, Guirassy qui aurait pu prétendre au titre, mais bon, il n'a pas...
Il a même pas été nominé dans les 30, Guirassy.
Bon, après ça, c'est autre chose. Le ballon d'or,
ça, vraiment
français,
avec.
Ça, c'est...
africain. Non, il est même pas dans les 30 joueurs africains.
Oui, bien sûr que si, il a été nominé même dans
le top 3.
Ça jouait entre le top 3. Il était dans le top 3. Ça jouait entre lui, Hakimi et Lookman.
Ok, pardon.
Ah si, il manquerait plus que ça quand même.
C'est vrai.
Après, mérité pour le gardien de l'Afrique du Sud qui a arrêté 3 pénaltys, si je ne me trompe pas, en quart ou en demi-finale de la CAN. Et aussi, sélection de la... En vrai, c'est mérité pour la Côte d'Ivoire, même si dans le jeu, ça n'a pas été ouf. Mais bon, ils ont pris la CAN. On va leur donner...
Quelle des équipes qui gagnent des compétitions en journée, il y en a.
De toute façon, une année de compétition internationale, c'est souvent...
Une équipe qui joue bien.
Puis vous auriez Mickey si vous avez...
Le Nigeria.
Oui, dans le jeu.
Moi, j'aurais donné le Nigeria, mais sans doute, ils ont juste perdu la finale. Mais à part ça, ils ont fait une très belle compétition avec un très beau jeu proposé. Il n'y a pas eu de faute majeure. La Côte d'Ivoire, c'était trop ric-rac. Ils sont champions, ok.
Le parcours de la Côte d'Ivoire, il est incroyable.
Moi, je dis pas qu'il est pas incroyable. Ça n'a rien à voir avec. Mais moi, je parle en meilleure sélection africaine de l'année. Pour moi, c'est une équipe qui a montré du beau jeu et qui a réussi à gagner et aller au bout des compétitions. Une finale, maintenant, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais
que le vainqueur.
Oui, on retient le vainqueur, il y a pas de souci, mais la meilleure sélection pour moi, c'est pas les pour moi, c'est pas ce qui décrit la meilleure sélection. Si tu gagnes, pour moi, t'es pas forcément la meilleure. Voilà, c'est juste ça, mon petit coup de gueule.
Si t'es le meilleur au niveau des résultats, t'es pas le plus spectaculaire peut-être, mais au niveau des résultats.
Surtout qu'il y a une confrontation directe entre les deux équipes pour le coup.
Hein, c'est ce qu'on disait à Alexandre au moment de l'Euro, quoi.
Ils sont qualifiés pour la prochaine CAN, rien à dire pour la Côte d'Ivoire.
Après, avec Nigeria et Côte d'Ivoire, il y en a eu deux des confrontations. Les Nigériens ont gagné la première.
Oui.
Donc,
qu'on aurait pu quand même donner au Nigeria.
On aurait pu donner au Nigeria.
Mais ils ont gagné la plus importante.
Ouais, ils ont gagné la plus importante.
Il n'y a pas de souci.
Mais
pour moi, en tout cas, bah, ils ne se sont pas fait humilier à domicile. Bon, on ne va pas revenir sur tout ça. Il y a eu pas mal de choses. On va enchaîner avec une petite virgule avant d'enchaîner et clôturer aussi avec ce qui s'est passé en Liga. On va revenir rapidement aussi sur la Bundesliga. À tout de suite. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais on va pas s'éterniser hein, sur les résultats. Hein. Le Real Madrid qui concède le nul face au Rayo Vallecano dans un match fou, hein, 3-3 avec un Kylian Mbappé absent qui s'est ressenti un peu, mais avec Bellingham qui enchaîne tout simplement un cinquième match, cinquième but consécutif. Et FC Séville qui sont imposés 1-0 face au Celta Vigo qui commence à retrouver des couleurs avec notamment Jesús Navas qui a joué son dernier match, hein, grosse ovation pour ce joueur là et voilà, très rapidement aussi Barcelone qui n'y arrive pas aussi hein, qui perdent à domicile face à Leganés, franchement qui voilà, ils ont pu prendre l'opportunité de prendre un peu plus de points, ils l'ont pas fait et l'Atlético de Madrid qui joue encore les troubles faites eux 1-0 face à Retafe hein, Atlético de Madrid qui enchaîne 11 matchs, 11 victoires toute compétition et franchement Atlético il y a rien à dire hein, je pense qu'il y a rien à dire et attention, ils peuvent être champions donc
oui,
très rapidement.
Tant mieux,
vos impressions sur cette journée.
Tant mieux, ça prouve que on va avoir un beau championnat espagnol, un match à 3 où tout est possible. Voilà, donc C'est bien, même si c'est toujours les mêmes. Hein. Barcelone, le Real et puis l'Atlético, c'est souvent les mêmes, mais bon, c'est bien. C'est un match
un
à 3, ça va être...
Un favori, Philippe.
Alors, peut-être le Real, ouais. Peut-être le Real, parce que là aussi, c'est une histoire de temps et de durée.
Merci, Philippe.
Léo ouais, c'est cool ce qui est en train de se passer, surtout que le Real et l'Atlético ont un match en moins et un seul point de retard par rapport au Barça. Le Barça et l'Atlético qui s'affrontent samedi, sans Lamine Yamal qui est blessé pendant 3 à 4 semaines.
On avait vu, hein, le Barça sans Lamine Yamal, c'est une autre équipe, oui. C'est très difficile. Mais peut-être que là, il va aligner Ferran Torres à droite.
Le Barça qui reste que sur une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Liga, donc tu perds beaucoup de points, dont beaucoup à domicile en plus, malheureusement. Moi, j'aime bien l'Atlético. C'est une équipe qui avance un petit peu dans l'ombre par rapport aux deux géants espagnols. On n'en parle pas trop, ils sont là, ils font leur match. Griezmann qui continue à briller, le fils Simeone Giovanni qui s'impose à l'Atlético. Une équipe qui tourne bien. Franchement, je dirais pas qu'il y a une pièce à mettre. Enfin, il y a forcément une pièce à mettre en ce moment. Je sais pas s'ils finiront champions, s'ils tiendront toute la saison avec la Ligue des Champions. Mais j'aime beaucoup ce qu'est en train de réaliser l'Atlético sur ce début de saison. Enfin, jusqu'alors, parce que maintenant, on est même au tiers de la saison. Donc, voilà.
Merci, Léo. Bamboli, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ces résultats en Liga ?
C'est Barcelone qui font encore un faux pas. Ils auront pu prendre un peu d'avance avec leur dernier match, parce que vraiment, en ce moment, ça va plus trop. Le Real aussi, qui est bien revenu, mais qui fait un nul. Et là, l'Atlético, ils peuvent faire la bonne opération en s'imposant avec leur match en retard. Mais vraiment, je vois pas... l'Atlético prend le titre de la Liga, déjà parce qu'il y a Griezmann dans l'équipe et qu'il n'en a jamais pris. Et surtout parce que je ne vois pas le Barça... et aussi, je ne vois pas le Barça prendre la Liga, parce que pour moi, sur la durée, ça va pas tenir, surtout avec l'absence de Yamal. Je pense qu'ils perdront encore quelques points et que le Real s'imposera à la fin.
C'est ce qu'on dit généralement, Kylian Mbappé qui le disait même dernièrement, qui est blessé en ce moment. C'est dans la deuxième partie de saison qu'on attend les grands joueurs et qu'on attend aussi le Real. Et c'est là où il faut répondre présent. Et je pense que, en tout cas, c'est ce qu'il a envie de faire. Et il a commencé avant de se blesser là. Mais du coup, la tâche ne sera pas facile, en tout cas pour les Madrilins. Mais rien n'est joué encore. Hein. Là, tout est relancé. Hein. Barcelone qui avait une avance. Et là, tout est relancé. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre, qui se frotte la tête hein, voilà, là, c'est dur.
Franchement, pour faire très rapide, je comprends, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible d'avoir 13 points d'avance et de perdre 13 points en un mois et demi. Ça frôle la faute professionnelle. Et on pourrait parler de l'arbitrage, mais je vais pas parler de l'arbitrage. On pourrait parler de chaque joueur individuel, mais je vais pas faire ça. Je vais juste parler rapidement collectivement du Barça. C'est incompréhensible parce qu'ils sont capables de faire un match incroyable contre Dortmund et de faire un match pitoyable contre Leganés. Et c'est là, en fait, que tu te dis que c'est vraiment une histoire de motivation. De motivation, d'autant plus que tu as la chance de voir le Real Madrid faire 3 partout le jour d'avant contre le Rayo Vallecano. Donc, tu as la chance de prendre des points d'avance et tu viens te saborder tout seul. Bon, c'était un match très compliqué, hein. Je l'ai revu avant d'arriver ici, c'était vraiment un match compliqué. Mais tu viens de s'aborder comme ça face à Leganés, perdre 3 points, c'est vraiment compliqué, quoi. En plus, tu joues
énormément de ratés aussi. Hein.
Ouais. Beaucoup de ratés, mais surtout une équipe de Leganés qui, c'est pas du football. Je vous invite à regarder le match, c'est pas du football. Bah, c'est pas du football.
En tout cas, c'était pour tenir un bon résultat, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, hein, qui font la bonne opération. Leganés qui se donnent un bol d'air, hein, et qui sont 15e maintenant de ce championnat. Barcelone, premier avec 38 points, avec l'Atlético de Madrid, deuxième avec 38 points, et le Real Madrid, troisième avec 37 points. Tout se tient avec un petit point, en sachant que l'Atlético de Madrid et le Real Madrid ont un match en retard. Bien évidemment, il y aura un choc entre le Barcelone et l'Atlético de Madrid week-end prochain à ne pas rater. En fin de championnat, on a l'Espagnol Barcelone qui sont à 14 points, Valladolid avec 12 points, et Valence qui sont encore dans le mou, même s'ils ont 2 matchs de retard, ils sont dans le mou avec 10 points. Et on va enchaîner très rapidement avec la Bundesliga. Hein, la Bundesliga, le Bayern Munich qui lâche des points. Hein, le Bayern Munich qui perd tout simplement face à Mayence 3-2, et qui laisse ses concurrents revenir à 4 points. Bayer Leverkusen qui sont à 4 points derrière. Attention. Le Bayern, bon, avec le retour de Harry Kane, sûrement ça devrait aller. Bambouri, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as suivi de près cette équipe du coup?
Ça a été un match très difficile quand même, avec Kimmich en dessous des standards, vraiment des erreurs défensives pas possibles avec Kimmich, vraiment qui loupe son match, ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Upamecano qui était sur le banc et ça s'est fait ressentir. Après aussi, ça a été un match vraiment où ils n'ont pas pu mettre d'intensité dedans. Mayence, c'était très dur dans les duels, et là c'est la première défaite en Bundesliga. Vendredi, il y a un gros match qui arrive contre Leipzig. Faudra pas le perdre, parce qu'en cas de défaite et en cas de victoire de Leverkusen juste après, ils reviendront à 1 point. Et on sait que la saison dernière commence à s'être finie, et on veut pas refaire de saison blanche pour le Bayern.
Bah avec Harry Kane, la bête, le chat noir un peu, on peut dire. Harry Kane qui bah regardez, ils se sont fait éliminer déjà de la Coupe d'Allemagne. Là, ils reviennent encore. Est-ce que tu penses que la malédiction pourra être brisée avec Harry Kane au Bayern de Munich? Parce que c'est le seul club où on se disait, il va là-bas, c'est sûr qu'il va trouver des trophées. Et dès qu'il arrive là-bas, première saison, rien.
Je pense que la malédiction sera brisée. Après, ça va être dur, je pense, mais je pense que cette saison, le Bayern vont au moins prendre la Bundesliga, parce que quand même, les Leverkusen, ils sont un peu... Cette saison, ils sont un peu moins solides que la saison dernière, quand même.
Bah, ils ont quand même éliminé le Bayern en coupe. Hein, quand même.
Et après, il fallait voir le match avec un carton rouge de Neuer, et malgré ça, vraiment, le Bayern dominait le match. Mais bon, ça arrive, et en Bundesliga, je vois plutôt le Bayern s'imposer quand même.
Bambouri, qui est supporter du Bayern Munich, je pense que vous l'avez remarqué aussi. Ouais. Voilà, et du coup, toi, Philippe, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ils ont une petite marge, le Bayern, je m'inquiète pas trop. 4 points, ils ont une petite marge.
Pour toi, la malédiction sera levée.
Oui, je pense. Tout du moins pour le titre de champion d'Allemagne, oui.
Okay. Alexandre?
Franchement, ouais, je pense que je suis d'accord avec Philippe, je pense qu'au final, ça finira par le faire, et Harry Kane brisera enfin la malédiction. Donc voilà, mais Dortmund, ils ont lâché des points, je crois, encore. Ils ont fait un match nul.
Partout contre Fenheim.
Voilà. Mais la Bundesliga est intéressante encore une fois cette année. Mais je pense que voilà, ça finira par une victoire du Bayern Munich.
Merci Alexandre. Léo, qu'est-ce que...
Moi, pour dire un dernier mot ou une dernière phrase, c'est que j'aimerais bien avoir un problème du nom d'Harry Kane dans mon équipe. et puis voilà.
T'aurais bien aimé avoir Harry Kane, toi, dans ton équipe?
Je pense qu'il n'y a aucune équipe dans le monde qui n'aimerait pas avoir un Harry Kane.
Je pense aussi. Merci beaucoup en tout cas à nos chers téléspectateurs, merci, et on vous remercie, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, hein. On arrive à la fin de l'année, on se retrouve dans 2 semaines, en 2025, voilà, dans 3 semaines, merci Philippe, dans 3 semaines, tout simplement, bonne fête de fin d'année. Et merci. Et suivez les matchs parce qu'on va revenir avec du beau spectacle, on espère, pour toutes ces équipes.
Et vive le foot.
Et vive le foot. Voilà. Et bien évidemment, vive au bout du foot. Et vive mon Paris FM. À très bientôt. Merci Jason. Merci Bambori. Merci Alexandre. Merci Léo.
Bonne
et merci Philippe pour cette émission. Et on vous retrouve très bientôt. On vous fait de gros bisous. À bientôt.